Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Un homme peut-il tromper Dieu ? En effet, vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace, afin qu'il ne détruise pas les produits du sol, et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Un homme peut-il tromper Dieu ? Ou d'autres versions disent, un homme peut-il voler Dieu ? Peut-on voler Dieu comme un homme entre dans un magasin pour voler un CD ? La réponse logique à cette question devrait être, mais non, c'est pas possible de voler Dieu. Il est le Créateur, il est au-dessus de toute chose. Ce n'est pas possible de le tromper. Ce n'est pas possible de le voler. Bien, c'est étrange, mais en vérité, Dieu nous dit ce matin que c'est possible de le voler. Au verset 8, il est écrit que son peuple le trompe, qu'il le vole. Jusque maintenant, Malachi a parlé de choses positives. Il nous a parlé du grand amour de Dieu pour son peuple. Et Malachi nous a aussi parlé de choses plus négatives. Malgré son amour, son peuple doute de cet amour. Les prêtres n'adorent pas Dieu comme ils le devraient, par leurs sacrifices et par leurs enseignements. Et le peuple de Dieu ne l'adore pas comme il le devrait, notamment par leur mariage ou leur choix d'union. Et aussi, il méprise sa justice, comme on l'a vu la semaine passée. Et cette fois-ci, Dieu reproche à son peuple qu'il ne l'adore pas comme il le devrait, avec leurs dîmes, avec leurs dons financiers. C'est donc une occasion pour nous de penser à nos dons financiers, à comment nous donnons, à comment nous utilisons nos ressources financières, et à pourquoi nous donnons à l'Église. Et je sais que l'argent est souvent un sujet tabou. Mais il faut en parler, parce que Dieu lui-même nous en parle ce matin dans sa parole. Et puis, gardons en tête que c'est vraiment une joie que de donner. C'est une réelle joie et un privilège. Ça tombe bien aussi que ce passage en parle ce matin, parce que nous avons récemment eu l'AG, l'Assemblée Générale de l'Église, il y a quelques semaines, et on a remarqué qu'on a encore des progrès à faire dans ce niveau des dons financiers. Comme nous allons voir dans ce passage, nos dons financiers font partie d'une vie de vraie repentance et de foi. Ils découlent d'une bonne compréhension de qui est Dieu. Je vais répéter cela parce que c'est absolument essentiel. Et si c'est la seule chose que vous retenez ce matin, c'est déjà très très bien. Nos dons financiers font partie d'une vie de vraie repentance et de foi. Et ils découlent d'une bonne compréhension de qui est Dieu. Alors les Israélites volaient Dieu, et ce qui est grave, n'est-ce pas ? Ce qui est très grave. Et la question n'est pas tant de combien est-ce qu'ils volaient Dieu. Non, c'est plutôt pourquoi donc volaient-ils Dieu ? Et c'est ce que Malachie nous apprend au verset 6 et au début du verset 7. Ils volent Dieu parce qu'ils ont oublié qui il est. Malachie écrit les versets 6, début du verset 7, pour leur rappeler le caractère de Dieu. Parce qu'il sait que tout Israël agit comme une nation impie en volant Dieu parce qu'ils ont oublié qui il est. Dieu dit au verset 9, « Vous me trompez, vous me volez, la nation tout entière. » Au verset 6, Dieu leur rappelle donc qu'il est l'Éternel, celui qui est et qui ne change pas. Comme à son habitude dans ce livre, avant d'inculper son peuple de ce qu'il le déshonore, Dieu lui rappelle sa fidélité et son grand amour. Ce qui accentue d'ailleurs encore plus la folie de leur infidélité envers lui. Mais ce rappel de sa fidélité et de son amour est là aussi pour leur donner la motivation, pour leur donner la raison pour laquelle ils devraient agir différemment, pour laquelle ils devraient changer d'attitude, pour laquelle ils devraient donner de leurs ressources. Dieu leur rappelle que lui, il est constant, que lui ne change pas. Il reste constant dans sa fidélité et dans son grand amour. Le passage de la semaine passée s'est terminé avec le jugement à venir. Et pour être honnête, selon la Bible, les Israélites rebelles, et même nous qui sommes si souvent rebelles, mériteraient d'être jugés et d'être détruits par Dieu. Parce qu'étant un Dieu parfait, juste, saint, il ne peut tolérer l'infidélité et la désobéissance. Mais dans la suite du verset 6 et le début du verset 7, nous lisons « Et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. » C'est surprenant, n'est-ce pas? Alors que les descendants de Jacob méritent le jugement, qu'ils désobéissent depuis le début à Dieu, qu'ils se sont écartés de ses prescriptions et qu'ils ne les ont pas respectées depuis l'époque même de leurs ancêtres, de leurs pères. Dieu est resté fidèle à son alliance. Il est resté fidèle dans son amour, dans sa compassion imméritée. Il ne les a pas détruits. Il faut dire que Dieu n'est pas du tout comme nous, n'est-ce pas? Quand on nous fait du tort, par exemple, quand un ami nous fait un coup bas, ou quand une autre voiture nous rentre dedans alors qu'elle est en tort, nous avons plutôt envie que l'autre souffre plus ou moins immédiatement des peines d'un jugement, n'est-ce pas? Je ne sais pas si dans une voiture, quelqu'un vous fait quelque chose. Oh! Eh bien, Dieu n'est pas comme nous. Non, il est lent à la colère, il est riche en compassion. Il ne nous donne pas ce que nous méritons, la destruction. Il nous donne ce que nous ne méritons pas, la grâce. Je pense que Malachie appelle les Israélites descendants de Jacob, ici, dans ce passage, pour leur rappeler les 5 premiers versets de ce livre, où Dieu dit qu'il aime Jacob et qu'il les avait choisis par amour et par pure grâce. Mais quand on y pense, Dieu n'a pas changé. Il n'avait pas détruit son peuple alors qu'il le désobéissait pourtant. Et il montre son grand amour envers nous en ce qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour qu'il meure à notre place, pour qu'il soit qu'il prenne le jugement qu'on mérite et pour nous réconcilier avec lui-même pour toujours. Dieu n'a pas changé. Il reste constant. Il ne change pas dans son grand amour immérité. Les Israélites sont désobéissants à Dieu. Mais Dieu ne pardonne pas juste comme ça. Il ne ferme pas les yeux. Il ne fait pas comme si rien ne s'était passé. Au milieu du verset 7, il appelle son peuple à la repentance. Il dit « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». Et ce matin, il nous dit « À nous aussi, repentez-vous, revenez à moi et je reviendrai à vous ». On vient de le voir, Israël n'a pas cessé de désobéir à Dieu, de se détourner de lui. Et du coup, comme les versets 9 et 11 nous le disent, Dieu s'est détourné d'eux. Il les a frappés par la malédiction. Ils n'ont pas de pluie et les insectes dévorent le fruit de leur sol et leurs vignes. Parce qu'ils désobéissent, parce qu'ils volent Dieu, ils le trompent. Alors Dieu leur dit, revenez à moi. Tout simplement parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Dieu dit qu'il reviendra à eux à condition qu'ils reviennent à lui, à condition qu'ils se repentent, qu'ils fassent demi-tour de leur mauvaise voie et qu'ils reviennent à lui avec foi et avec confiance. S'ils se repentent, alors Dieu s'empressera de leur montrer, de leur confirmer son amour et sa fidélité en revenant à eux. Alors la repentance est quelque chose d'essentiel pour être réconcilié avec Dieu, pour être en de bons termes avec lui. Peut-être la repentance est quelque chose d'un peu flou pour vous. Vous ne savez pas, vous connaissez pas bien ce mot, c'est un peu religieux peut-être. Mais je suis sûr que tout le monde connaît le concept de la repentance. On se repent par exemple quand on fait du tort à une personne, à un collègue, à un ami, peut-être à son conjoint. Quand on se repent, qu'est-ce qu'on fait? On reconnaît qu'on a fait du tort à l'autre, n'est-ce pas? Ensuite, on demande pardon et on change d'attitude. Alors, c'est logique, c'est pas possible de se repentir sans reconnaître qu'on a fait du tort. C'est essentiel de reconnaître qu'on a fait du tort. Et c'est ce qu'Israël devait faire, tout en faisant confiance à Dieu. Par contre, je crois que c'est possible de se repentir sans demander pardon avec la bouche. Je crois que c'est vrai de demander, que c'est mieux de demander pardon verbalement, mais ça ne vaut rien s'il n'y a pas de changement d'attitude. En fait, un changement concret d'attitude est essentiel dans la repentance. Sinon, il n'y a pas de réelle repentance. Souvent, quand je réalise que j'ai fait du tort à mon épouse, Sarah, je lui dis, je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. Mais Sarah me dit que les mots qui sortent de ma bouche ne l'intéressent pas tellement, finalement. Parce que ce qui l'intéresse, c'est plutôt de voir un changement, que j'arrête de lui faire ce tort. Sinon, mes mots sont vraiment comme du vent. Sinon, ma repentance n'est pas réelle. Si vous n'êtes pas croyant ce matin, bien sachez que c'est nécessaire que vous vous repentiez. Chacun de nous s'est écarté de Dieu. Chacun de nous a vécu comme étant le Dieu de sa propre vie. Et nous méritons tous d'être détruits, parce que cela est grave aux yeux de Dieu. Et cela est juste. Mais vous voyez, Dieu nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour que lui soit détruit à notre place, à la croix. Oui, Dieu est plein d'amour, mais Dieu ne ferme pas les yeux. Il vous faut reconnaître votre tort, faire demi-tour et revenir à Dieu. Il faut arrêter de vivre pour soi, pour soi-même, et se tourner vers Jésus-Christ et faire confiance, avoir foi en ce qu'il a fait à la croix pour nous tous. Et désormais, il faut changer concrètement d'attitude. En laissant Jésus-Christ être le maître de votre vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait du bout des lèvres. Non, c'est quelque chose qu'on fait avec toute la vie, en changeant d'attitude. Par exemple, on lit en Luc 19 que lorsque Zachée, un collecteur de taxes malhonnête, est devenu croyant, il n'a pas dit « pardon » littéralement avec la bouche. On ne voit pas ça dans le passage. Mais il a reconnu ses torts, notamment dans le domaine financier. Il a fait demi-tour vers Jésus. Il s'est confié en lui. Il a laissé devenir un maître de toute sa vie. Et comment cela s'est-il exprimé ? Bien, cela s'est vu en ce qu'il a donné la moitié de tous ses biens aux pauvres. Et il a donné quatre fois plus. Il a rendu quatre fois plus à ceux à qui il avait causé du tort. Alors, la repentance ne s'exprimera pas de la même manière pour tout le monde. Non. Pour certains, oui, il y aura de l'argent qui sera rendu ou de l'argent qui sera donné. Et pour d'autres, il y aura un changement au niveau des paroles qui sortent de nos bouches. Pour d'autres, il y aura des changements à d'autres niveaux. Il y a un danger si on est chrétien. C'est celui de croire qu'on s'est repenti une fois dans le passé et ça y est, on n'a plus à se repentir. Et c'est vrai qu'il y a un demi-tour qu'on fait une fois dans le passé, quand on se détourne, quand on fait demi-tour vers Jésus-Christ pour mettre sa confiance en lui. Oui, ça c'est quelque chose qui se fait une fois dans le passé, ou bien une fois maintenant, si vous n'êtes pas encore croyant. Mais en même temps, il nous faut reconnaître que nous nous détournons si souvent de Dieu, encore maintenant. Et c'est pour cela qu'il faut continuer à se repentir. En fait, la vie du croyant est toujours la même, durant toute la vie comme au début. C'est une vie de confiance en Jésus-Christ, permanente, pour être réconcilié avec Dieu. Et c'est une vie de repentance, de retour à Dieu. Mais c'est aussi une vie d'amélioration, parce que Dieu travaille en nous par son esprit, par sa grâce. Notre passage nous parle d'une repentance du même type que celle de Zachée. C'est ce que nous lisons à la fin du verset 7 jusqu'à la fin de notre passage. Le peuple doit se repentir et Dieu, il s'attend à une repentance qui s'exprime par les actes. Comment doivent-ils se repentir ? Eh bien, c'était ça la question des Israélites à la fin du verset 7. Vous voyez ? En quoi devons-nous revenir ? Demande-t-il à Dieu. En fait, cette question n'était pas une question sincère par laquelle il désirait savoir, il désirait savoir pour quelle raison il devait se repentir, pour quelle raison il devait revenir à Dieu. C'était plutôt une remise en question de l'accusation de Dieu, le rejet de leur tort. En fait, les Israélites étaient arrogants et aveugles. Et ils demandent à Dieu, qu'avons-nous fait de mal ? En quoi devons-nous revenir, Dieu ? Et Dieu clarifie alors les choses pour qu'ils soient sans excuse au verset 8. Alors que c'est impensable qu'un homme puisse tromper, voler Dieu, eux, il le trompe, il le vole. Comme je l'ai déjà dit indirectement, le mot tromper est à comprendre dans le sens de oui, tromper, mais tromper, voler. Dieu utilise ce mot ici pour leur rappeler, comme au verset 7, qu'ils n'ont pas changé. Ils ont toujours désobéi depuis l'époque de leurs ancêtres. Ils sont comme leur père. Jacob, le voleur, dont le nom signifie le trompeur. Dieu les inculpe donc, mais les Israélites sont vraiment endurcis dans leur rébellion. Ils le questionnent encore une fois au verset 8, n'est-ce pas ? Ils s'enfoncent, c'est comme un coupable essaie de masquer son tort. Dis-le-nous, en quoi t'avons-nous trompé ? En quoi t'avons-nous volé ? Mais quand j'y pense, Dieu doit vraiment nous voir souvent de la même manière. Lent à se repentir, endurci, dur, ne voulant pas reconnaître notre tort. Alors Dieu se fait, on ne peut plus clair. Il leur dit qu'ils l'ont trompé, qu'ils l'ont volé dans les dîmes et dans les offrandes. Nous n'avons toujours pas répondu à la question de comment ils devaient se repentir, de comment nous devrions nous aussi peut-être nous repentir. Et en se mettant à genoux, en criant des mots de lamentation et demandant pardon à Dieu. Donc Dieu ne demande pas ça ici dans ce passage. Dieu dit, changez d'attitude, donnez de vos possessions et de votre argent pour mon œuvre. On voit cela au verset 10, n'est-ce pas ? Il écrit, apportez toutes les dîmes et à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. En fait, les dîmes et les offrandes, elles servaient à quoi ? Les dîmes servaient notamment à pourvoir aux besoins des prêtres qui s'occupaient de la santé spirituelle du peuple d'Israël. Et si les gens ne donnaient pas les dîmes, alors le temple ne fonctionnait pas correctement. Et s'ensuivait alors le désastre spirituel. Et ultimement, la conséquence pour les Israélites de l'Ancien Testament, selon le verset 9, était la malédiction. Plus de pluie, plus de récolte, plus rien. Voici le problème du peuple de Dieu selon ce passage. Parce qu'ils avaient perdu de vue le caractère de Dieu, parce qu'ils avaient perdu de vue sa constance, son amour, sa compassion, ils ont fini par perdre de vue l'œuvre de Dieu. Et du coup, ils ont arrêté de donner. Et ce principe reste le même aujourd'hui. Quand on perd de vue qui est Dieu, quand on perd de vue comment est Dieu, sa grâce en Jésus-Christ, alors on perd de vue l'œuvre de Dieu, qui est celle de le faire connaître. Et quand on perd de vue l'œuvre de Dieu, alors les dons d'argent diminuent et disparaissent. Jésus dit avec justesse en Matthieu 6, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Si notre cœur, si notre trésor n'est pas en Dieu à cause de l'évangile de Jésus-Christ, alors notre argent n'ira pas pour son œuvre, mais ira plutôt là où est notre trésor. Alors avant de continuer à voir plus en détail comment ces versets s'appliquent à nous, il nous faut être clair sur ce que n'est pas la vraie repentance. Ce passage ne dit pas que la vraie repentance doit forcément se manifester par le don de notre argent. Non. Ce passage nous dit que la vraie repentance vient d'une bonne compréhension de qui est Dieu, de comment il est. Et de là découle un désir de changer pour Dieu dans beaucoup de domaines, dans tous les domaines de nos vies. Que ce soit dans le domaine des relations, comme on l'a vu déjà en Malachie. Et comme ce passage nous le dit, de là découle aussi un réel désir de donner pour l'œuvre de Dieu. Ça vient de la connaissance de qui il est et de comment il est. Il faut aussi qu'on fasse attention à comment on applique ces versets. On voit au verset 10 à 12 que Dieu dit à Israël, leur dit de le mettre à l'épreuve. Vous avez vu ça ? C'est surprenant, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Il dit, c'est pas une mise à l'épreuve dans le sens de le tenter, parce que justement Dieu, dans sa parole, interdit cela. Mais c'est plutôt dans le sens de voir sa fidélité, la fidélité à ses promesses. Il leur dit, amenez-moi toute la dîme, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est-à-dire que je n'ouvre pas, vous verrez si je n'ouvre pas les fenêtres du ciel et que la pluie tombe et que vous ayez des récoltes en abondance en conséquence. Vous verrez que je ne menacerai pas, dit l'Éternel. Vous verrez que je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas le produit du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes. Il faut bien noter que Dieu dit ces choses à un moment spécifique de l'histoire. Ok ? Il le dit avant que Jésus-Christ ne vienne, avant la nouvelle alliance en Jésus, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, au moment de l'ancienne alliance, celle conclue dans le désert. Et dans cette alliance, cette ancienne alliance, Dieu disait que s'ils obéissaient, alors il le bénirait physiquement. Il enverrait la pluie, ils auraient des récoltes abondantes, etc. Mais s'ils lui désobéissaient, alors il n'enverrait pas la pluie, il n'aurait plus de récolte, etc. Ainsi, l'obéissance dans l'Ancien Testament avait des conséquences immédiates, bonnes ou mauvaises. Aussi, il faut dire que, comme dans ce texte, beaucoup d'autres passages de l'Ancien Testament parlent de grandes bénédictions abondantes, de grandes abondances matérielles. Et souvent, cette image de grande abondance décrit une époque lointaine et un endroit où la bénédiction totale aura lieu, c'est-à-dire le ciel. Et cela a du sens, parce que c'est seulement au paradis qu'il y aura l'abondance totale, n'est-ce pas ? Ainsi, en plus de parler de bénédiction physique pour le peuple de l'Ancien Testament, ce passage nous parle aussi du paradis. Et ce ne sera que ceux qui seront revenus à Dieu dans la repentance et la foi qui y seront. Et conformément à la promesse faite à Abraham en Genèse 12 au verset 3, le verset 12 de notre passage nous dit que c'est à ce moment-là, c'est au ciel, que toutes les nations déclareront le peuple de Dieu heureux. Si nous sommes de son peuple, ils nous déclareront heureux. Car nous serons un pays de délices. Nous serons une terre désirée. En effet, notre patrie sera merveilleuse. Et on y sera grâce à Jésus. Ok. Mais qu'est-ce qu'il en est pour aujourd'hui ? D'accord, pour le futur, d'accord, pour Israël, dans l'Ancien Testament, mais qu'est-ce qu'il en est pour aujourd'hui ? Au temps de Malachie, l'obéissance du peuple avait des conséquences physiques immédiates. Mais cela n'est plus le cas dans le Nouveau Testament, dans la nouvelle alliance conclue par Jésus. C'est vrai que jusqu'à un certain point, il faut le reconnaître, on est récompensé proportionnellement à notre manière de donner. Mais le Nouveau Testament nous dit que nos récompenses sont plutôt immatérielles, qu'elles sont spirituelles. Et c'est vrai que Dieu, il faut reconnaître aussi que Dieu pourvoit pour nous matériellement. C'est ce que nous voyons toujours en Matthieu 6. Mais nous n'avons pas à nous préoccuper avec obsession de ces choses. Il ne faut pas donner à Dieu pour recevoir en retour. Ce n'est pas ça l'attitude. Non, Jésus nous dit que nous devons lui faire confiance pour ce qui est du matériel. Que ce que nous avons à faire, c'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice. On doit donc dire non à l'évangile de la prospérité, qui utilise ce passage même pour nous dire, si tu ouvres ton portefeuille et tu donnes au Seigneur, alors Dieu ouvrira les portes du ciel et il te rendra 10 fois plus. Cela est totalement faux. Cela est un faux évangile qui trompe et enfonce les gens dans l'idolâtrie de l'argent. On devrait aussi se méfier de quiconque se réfère à ce passage pour demander de l'argent. J'avais une étudiante l'année passée dans un de mes cours à l'IBB et elle m'a dit que son pasteur avait fait référence à ce passage-ci pour lui demander de l'argent pour l'église. lui laissant ainsi croire que Dieu la bénirait matériellement en retour. Non, nos dons financiers font partie d'une vie de vraie repentance et de foi. Et ils découlent de quoi ? Ils découlent d'une bonne compréhension de qui est Dieu, de comment il est. Donc, comme Dieu vise à nous en convaincre dans ce passage, ce matin, il nous faut avoir une bonne compréhension de qui il est. Il nous faut voir ô combien merveilleuse est sa grâce en Jésus-Christ. Il nous faut voir ô combien grande, longue et profonde est son amour pour nous en Jésus. Et il nous faut voir notre petitesse. Il nous faut voir à quel point notre attitude est horrible envers Dieu. Et de là découlera une vie de vraie repentance et de foi. Et de là découlera une préoccupation sincère et profonde de son œuvre. Et de là découlera des dons généreux pour son œuvre. Comme Hans Brandenburg l'a dit, et je paraphrase, la loi, celle de l'Ancien Testament, dans tous ses aspects, pointe vers un nouvel ordre de vie. Et c'est Christ seul qui l'inaugure. La loi déclare un jour de la semaine, le sabbat, comme étant consacré à Dieu. L'Esprit déclare, l'Esprit consacre toute la semaine à Dieu. Nous vivons toute la semaine pour Dieu. La loi met une tribu sur 12 à part pour qu'il soit prêtre. L'Esprit déclare que toute l'assemblée doit remplir le rôle de prêtre. La loi exige un dixième, 10% des possessions des gens. L'Esprit nous dit que nous sommes la possession de Dieu nous-mêmes et que tout ce que nous possédons lui appartient. Tout lui appartient. Nous ne sommes que des intendants. Nous ne sommes que des gérants. Et nous aurons des comptes à rendre à Dieu pour comment nous avons agi avec notre argent et nos possessions. Si vous cherchez à savoir ce matin quel est le minimum que vous devez donner, peut-être ça vous passe par la tête. Eh bien, le Nouveau Testament ne parle pas de minimum. Le Nouveau Testament ne parle pas de dîme. Donc c'est peut-être un peu faux de dire « donnons notre dîme ». Le Nouveau Testament ne parle pas de 10%. En fait, la question ne devrait pas être quel est le minimum que je devrais donner. Le passage de la veuve qui met dans le trésor du temple et qui donne peu, mais en fait finalement plus que les pharisiens qui donnent des sommes importantes. Et 2 Corinthiens 8 et 9 nous enseignent que nos dons d'argent devraient nous coûter, qu'ils devraient être généreux. Et qu'il devrait être effectué avec joie. Et ce passage nous dit aussi que c'est une question personnelle. Il nous faut donner comme nous l'avons décidé, sans regret ni contrainte. Prenons donc du temps, pourquoi pas cet après-midi, pourquoi pas ce soir, pourquoi pas cette semaine, pour penser à nouveau à nos dons pour l'Église. Au début de son ministère, John Wesley, un écrivain et théologien et prédicateur anglais du XVIIIe siècle, recevait 30 livres sterling, donc c'est la monnaie des gens, des Anglais, quoi, voilà. 30 livres sterling, c'est bizarre, hein, des livres, bref. Il recevait 30 livres sterling par an. Il calcula quels étaient ses besoins annuels. Et il en conclut qu'ils étaient de 28 livres sterling. La première année de son ministère, il donna donc 2. Vous me suivez, oui ? Il donna 2 livres sterling. La deuxième année de son ministère, ses revenus augmentèrent à 60 livres sterling. Il recalcula ses besoins pour l'année et il n'avait pas changé 28 livres sterling. Il donna donc 32 livres sterling. La troisième année de son ministère, ses revenus, grâce à ses ouvrages vendus, augmentèrent à 90 livres sterling. À 90 livres sterling. Il recalcula ses besoins, qui étaient les mêmes, 28 livres sterling. Il donna donc 62 livres sterling. À la fin de sa vie, John Wesley donnait 95% de tous ses revenus. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'il savait qu'il était un simple intendant de Dieu. Et il était convaincu du grand amour de Dieu en Jésus-Christ pour lui. Et il était convaincu de l'importance de l'œuvre de Dieu. Pour certains, 10% sera peut-être de trop. Pour d'autres, 10% sera trop peu. Mes chers amis, Dieu nous a tant aimés par le don de son Fils Jésus-Christ à la croix. Repentons-nous donc réellement et venons à Christ avec foi. Repentons-nous donc en vue du salut, mais repentons-nous chaque jour de nos vies dans différents domaines et peut-être dans ce domaine financier. Et puis Dieu nous a tellement donné en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous empêcherait de donner généreusement pour l'œuvre de Dieu? Prions ensemble pour terminer. Notre tendre Père, nous te remercions pour ton amour exprimé en Jésus-Christ. Merci que, alors que Jésus était riche, il s'est fait pauvre pour nous. Aide-nous à nous repentir à différents niveaux. Et fais que nous soyons un peuple généreux pour toi et l'avancement de ton œuvre, et ceci à cause de l'Évangile. Amen.